Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Oui. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Gloire à Dieu. Moi, je suis dans la joie. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous ce matin. C'est une joie, c'est un honneur d'être là. Merci à Frédéric pour cette invitation. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Cyril. J'ai cette grâce, cette joie, cet honneur de servir en tant que pasteur depuis 4 ans maintenant dans l'Église d'Action Chrétienne. Aux côtés du pasteur Jacques Rouquet, de son épouse, mais aussi aux côtés de Frédéric, aux côtés de Sandra Tana, aux côtés de Thomas Conning, qui maintenant est parti en Australie. Mais c'est une véritable joie de pouvoir servir à côté d'hommes et de femmes d'expérience, aux côtés d'hommes et de femmes remplis de foi et remplis d'amour pour le Seigneur. Et vous savez, parfois, en tant que jeune, parce que je me considère encore comme un jeune homme, on ne mesure pas toujours la grâce que c'est d'avoir des aînés autour de nous. Et ce matin, je veux pouvoir vous encourager, vous les jeunes, à vous rapprocher des générations qui sont un peu plus jeunes depuis plus longtemps que vous, pour que vous puissiez bénéficier de leur expérience, de leur foi, de leur sagesse. Parce qu'il y a une véritable richesse dans le partage des générations, et c'est ce que nous vivons avec notre épouse, et je veux vraiment vous encourager avec ça. Gloire à Dieu. Amen. J'ai la joie de servir le Seigneur aux côtés de mon épouse. Nous avons été bénis par 3 enfants, Elia qui a 9 ans, Ethan qui a 8 ans et Eliora qui a 6 ans. Ils sont remplis d'énergie, parfois un peu trop, un peu plus que nous, mais le Seigneur est bon, il nous renouvelle chaque jour. Amen. Ce matin, je voudrais vous parler d'un homme, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Jésus. Vous le connaissez? Soyez pas surpris, j'aime bien interagir avec l'assemblée quand je prêche. D'abord, ça me fait me sentir un peu moins seul et ça m'encourage aussi. Jésus est un homme incroyable. D'abord parce qu'il est 100% Dieu, en plus d'être 100% homme. Et il y a quelque chose en lui qui réagit, qui, face à ce qu'il voit, il se passe quelque chose dans son cœur et ça le pousse à agir. Jésus, partout où il passe, Jésus va répandre la grâce de Dieu. Partout où il passe, Jésus va venir libérer. Jésus va venir délivrer. Jésus va venir guérir. Jésus va venir répandre la grâce de Dieu tout autour de lui. Jésus croise beaucoup de situations. Jésus croise beaucoup de gens en souffrance. Et à chaque fois qu'il voit, il y a dans son cœur quelque chose qui se passe, qui va initier, qui va amorcer son action. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est une vraie question. De la compassion, gloire à Dieu. Il y a de la compassion qui se crée, qui naît dans le cœur de Jésus et qui va le pousser à agir pour répandre à la grâce de Dieu. Vous savez, Jésus, après avoir guéri la belle-mère de Pierre à Capernaum, va parcourir la Galilée. Et sur la route, il va rencontrer un lépreux. Et la Bible nous dit en Marc 1, verset 41, qu'il est ému de compassion. Ému de compassion, il va venir toucher le lépreux et va le purifier de la lèpre. Un petit peu plus loin dans l'évangile, on nous dit que Jésus se dirige vers Naïm. On trouve ça dans Luc 7. Et là, il passe au milieu d'un convoi funèbre où il y a une veuve qui enterre son fils unique. La Bible nous dit que Jésus est ému de compassion. Ému de compassion, il va s'approcher du cercueil, il va toucher le corps et le corps va ressusciter. Le petit garçon va, enfin le jeune homme va revenir à la vie. Ému de compassion. Ému de compassion, Jésus va envoyer les apôtres. Et vous savez, c'est ce passage-là où les 12 partent en mission. Première mission d'évangélisation, ils vont aller faire plein de miracles, ils vont prêcher la repentance. Alors qu'ils reviennent vers Jésus. Après plusieurs jours, ils sont fatigués, ils sont épuisés, joyeux, mais fatigués. Jésus lui-même est fatigué. Il dit à ses disciples, écoutez, on va traverser le lac et on va aller se reposer un petit peu dans un endroit tranquille. Mais la foule les suit, la foule les voit, ils traversent le lac eux aussi. Et quand les disciples arrivent sur le bord, Jésus voit la foule. Et la Bible nous dit que, ému de compassion, Jésus va commencer à les enseigner. Jésus va commencer à répandre la bonne nouvelle. Parce qu'il nous dit, la Bible nous dit qu'il les voit comme étant des brebis sans berger. Ému de compassion, l'évangéliste Matthieu va nous dire qu'il va poser la main sur eux, il va les guérir. Ému de compassion, Jésus va agir. Un petit peu plus loin dans l'évangile, où on trouve ça dans Marc chapitre 8, Jésus est de nouveau devant une grande foule. Et là encore, l'évangéliste nous dit que, ému de compassion, la foule qui est là depuis 3 jours sans manger, ému de compassion, Jésus va venir multiplier les pains et les poissons pour nourrir toute cette foule. Ému de compassion, Jésus va agir et va venir toucher les personnes et les situations qu'il y a autour de lui. La compassion va enclencher l'action de Jésus en réaction à ce qu'il voit. Et pour cause, je sais que vous le savez, mais Dieu est un Dieu et le Dieu de compassion. Dieu est le Dieu de compassion, ça fait partie de son cœur, ça fait partie de sa nature. Exode 34, verset 6 nous dit ceci. L'Éternel, Dieu rempli de compassion, qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. Le psaume 116, verset 5 nous dit « L'Éternel fait grâce et il est juste. Notre Dieu est rempli de compassion, il est compatissant. » Encore un autre verset, le psaume 145, verset 8 et 9, « L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère, rempli de bienveillance. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Alléluia. Dieu est le Dieu de compassion. D'après Westphal, la compassion, compatir, c'est souffrir de voir l'autre souffrir. C'est souffrir de voir l'autre souffrir. C'est une souffrance qui est réelle, c'est comme un ébranlement intérieur. Ça peut être une résonance profonde de la souffrance de notre prochain. Mais il y a un constat réel, véridique. On ne peut pas ressentir la même douleur que la personne qui souffre, sauf si on est soumis nous-mêmes à cette même douleur. Si je prends un coup de marteau sur mon pied, je vais dire « aïe, je vais avoir mal, je vais avoir une douleur en moi, je suis sûr que vous allez compatir avec moi, mais en vrai, vous n'aurez pas la même douleur que j'ai dans mon pied, on est d'accord ?» Donc on ne peut pas réellement partager la souffrance de l'autre. Par contre, on peut se sentir profondément concerné par la souffrance de l'autre. Et c'est ça, compatir. La compassion, c'est souffrir, de voir l'autre souffrir, mais c'est être profondément concerné par la souffrance de l'autre. Dans la Bible, il y a un mot qui est utilisé pour traduire la compassion en grec, mais il est aussi parfois utilisé pour traduire le mot miséricorde. Il est aussi parfois utilisé pour traduire le mot pitié. Alors pitié dans notre langage courant aujourd'hui, ça c'est une connotation un peu péjorative, mais la pitié dans la Bible, c'est pas du tout péjoratif, bien au contraire. La pitié dans la Bible, c'est quelque chose qui prend place dans le cœur de Dieu et qui est mélangé, qui s'entremêle avec sa bonté, avec sa compassion, avec la miséricorde, tout ça, ça se mêle et ça vient composer l'amour de Dieu. C'est la nature de Dieu. Et c'est une notion qui est tellement importante, mes amis, que Jésus va accorder plusieurs enseignements durant tout son parcours. Jésus va insister sur la compassion auprès de ses disciples. Est-ce qu'on peut lire ensemble un passage que je suis sûr vous connaissez tous ? Que vous soyez chrétien ou pas, que vous veniez dans cette église depuis des années, ou que ce soit la première fois que vous veniez ici, vous avez déjà tous entendu au moins une fois parler de cette parabole. Qu'on trouve en Luc 10, à partir du verset 25. Luc 10, à partir du verset 25. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un Lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends-en de lui, et ce que tu dépenses en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? Il répondit « Celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit « Va, et toi, fais de même. » Jusqu'ici notre lecture. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes ensemble ? Père éternel, je veux bénir ton saint nom. Je veux encore te dire merci, Seigneur Dieu. Merci, Père, pour ta parole. Merci, ô Dieu, pour chacun des mots que tu as prononcés. Merci, Seigneur Dieu, pour chacun des mots qui est écrit dans nos Bibles. Car chacun de ces mots apporte la vie. Chacun de ces mots a une puissance, une force qui donne la vie. Et ce matin, Seigneur, je te prie pour que chacun de ces mots puisse venir œuvrer dans nos cœurs. Que nos cœurs soient ouverts ce matin à ta parole, que nos cœurs soient ouverts aux enseignements que tu veux nous apporter, afin que nous puissions nous laisser transformer par ta parole, afin que nous puissions nous rapprocher toujours plus de toi, afin que nos cœurs puissent te ressembler, nous te le demandons au nom de Jésus. Que rien, Seigneur Dieu, ce matin ne puisse venir porter atteinte à ce message, que rien ce matin ne puisse venir détourner notre attention de ce que tu veux nous dire. Et que cela puisse glorifier ton nom. Amen. Cette parabole est tout d'abord centrée sur l'observation de la loi. Alors qu'un docteur de la loi, très probablement un pharisien, demande à Jésus au verset 25, « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répond, mais Jésus sait à qui il parle. Il parle à un serviteur de Dieu. Il parle à quelqu'un qui enseigne la parole semaine après semaine, quelqu'un qui connaît la parole. Donc il lui dit, que dit cette parole que tu enseignes semaine après semaine ? En bon pharisien, il lui répond, la parole nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors Jésus lui dit simplement, mais obéis. Si c'est écrit, fais-le. Si tu mets en pratique cette parole, alors tu auras la vie éternelle. Vous êtes d'accord avec moi ? Et le passage nous dit que le pharisien veut se justifier. Il veut se justifier en posant une question à Jésus. Il lui dit, mais c'est qui mon prochain ? Le mot justifier est intéressant. Parce que le mot justifier qui est utilisé ici en grec, c'est le mot qui parle de la justification devant Dieu en Jésus. C'est le même mot qu'on peut retrouver dans plusieurs passages, notamment dans Acte 13. Je prends juste un exemple parmi tant d'autres. Acte 13, versets 38 et 39, c'est Paul qui parle et dit « Vous donc, frères, sachez le bien, pardon, par lui, donc par Jésus, le pardon des péchés vous est annoncé, et en lui, en Jésus, quiconque croit est justifié. Justifié de tout ce dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. » Justifié par Jésus, c'est le même mot qui est utilisé pour parler de la justification du pharisien. En fait, le pharisien n'est pas en train de dire à Jésus « Écoute Jésus, je voudrais être sûr que toi et moi on est sur la même longueur d'onde. Je voudrais être sûr que ma compréhension de la Torah, de la loi de Moïse est la bonne et que mon application est la bonne. » En fait, il n'est pas en train d'avoir une bonne conscience. Non, là, même si le pharisien au départ part avec une intention de piéger un petit peu Jésus, la réponse de Jésus l'a tellement décontenancé qu'il dit « Attends. Moi, je veux vraiment être clair devant Dieu. Je veux vraiment faire ce qui est juste. » Le mot « justifié » nous montre ici qu'il y a une disposition de cœur qui change auprès du pharisien. Il veut vraiment être droit devant Dieu. D'autant plus que la question qu'il pose, ce n'est pas une question banale. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les rabbins débattaient régulièrement sur la notion du prochain. Il y avait de grands débats qui étaient faits pour savoir c'est qui exactement le prochain. C'était important parce que de cette définition-là du prochain, en découler une mise en pratique de la parole. Donc c'était un débat très sérieux. Ce que pose la question que vient poser le pharisien, c'est quelque chose de très sérieux. Mais Jésus, contrairement aux rabbins de cette époque, ne va pas donner une définition de qui est le prochain. Sa réponse ne va pas être orientée vers qui est le prochain. Sa réponse est orientée vers la personne qui doit aimer le prochain. La réponse de Jésus n'est pas orientée vers le destinataire de l'amour, mais vers l'émetteur de l'amour. Et donc, il donne cette histoire. Un sacrificateur passe. Sacrificateur, un docteur de la loi, un pasteur, un prêtre, un ancien, un leader dans une église, passe, il sort de sa ville, il descend dans le sud. Et là, il croise un homme à moitié mort. Et le texte nous dit, il passe outre. Même chose avec un lévite, un conducteur de louanges, un chantre dans l'église. Il voit le même homme. Il le voit. Mais le texte nous dit, il passe outre. Ils sont pourtant tous deux serviteurs de Dieu. Ils sont pourtant tous deux en pleine connaissance de la parole de Dieu. Ils sont censés pourtant la pratiquer. Vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant, le texte nous dit qu'il passe outre. Et je crois que, j'espère que vous êtes peut-être tous comme moi, vous avez tous entendu que le mot passer outre voulait dire qu'en fait, il ne s'arrête pas, il continue la route. On nous a toujours enseigné que le pharisien et le lévite n'avaient rien fait pour ce pauvre homme. Il partait, et puis voilà. C'était le reproche un petit peu que Jésus pouvait faire dans cette parabole, contrairement au bon samaritain, justement. Ce bon samaritain qui, lui, s'est arrêté et a soigné ce pauvre homme à moitié mort. J'ai le regret de vous dire ce matin que c'est très probablement faux. Pour une raison très simple. Le terme utilisé en grec pour traduire, qu'on l'a traduit en français par « passer outre », est en fait un apax biblique. Un apax biblique, c'est un mot qu'on ne trouve qu'une seule fois dans la parole. Sauf que, on le trouve à un autre endroit, ce mot, dans la parole. On le trouve dans un texte qu'on appelle deutérocanonique. Mais dans l'autre texte, si je vous donne la référence, c'est Sagesse, chapitre 16, verset 10, on ne va pas lire, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est comment le mot est utilisé. Le même mot est utilisé pour traduire le soin, pour traduire un geste de guérison. Et ça, c'est Patrice Galup qui l'enseigne, qui est théologien, qui enseigne le grec à l'Institut de théologie de Montpellier. Il explique que le propos de Jésus, dans la parabole, n'est pas que le prêtre et le lévite ignorent l'homme blessé, mais qu'ils lui fourniraient des soins minimums. Ils lui fournissent les premiers secours et puis le laissent là et continuent la route en faisant le strict minimum. Contrairement au Samaritain qui, lui, va aller au-delà même de ce qu'on pouvait attendre. Lui qui est pourtant Samaritain, vous savez que dans la Bible, les Juifs et les Samaritains étaient... Ils ne s'aimaient pas trop, quoi. Il y avait une petite rivalité, il y avait un petit conflit entre eux qui fait que les Samaritains étaient particulièrement méprisés par les Juifs. Et puis, bon, les Samaritains le rendaient bien aux Juifs, ils les maîtrisaient particulièrement. On le sait, notamment parce que le chapitre, juste avant le chapitre 10, Jésus est en Samarie. Vous connaissez ce passage où il traverse la Samarie, ça se passe franchement pas bien du tout. Et il y a Jean et son frère qui viennent voir Jésus. Hey, est-ce que tu veux qu'on appelle le feu pour que ça tombe sur Samarie? Vous connaissez ce passage? Donc, il y avait vraiment un mépris réciproque. Mais c'est important de comprendre que ce mépris n'est pas dans le cœur de Jésus. Il n'est pas dans le cœur de Jésus. Jésus n'a aucun mépris pour qui que ce soit. Qu'importe d'où la personne peut venir, qu'importe ce qu'il a fait, Jésus n'a aucun mépris dans son cœur. On le sait aussi parce que les chapitres qui suivent, Jésus va guérir des Samaritains. De la même façon qu'il guérit le peuple juif partout où il passe. Ce Samaritain, face à la souffrance d'un homme très probablement juif, parce que l'histoire se passe à la sortie de Jérusalem, le texte nous dit qu'il est ému de compassion. Le mot utilisé, c'est le même mot qu'on utilise pour décrire la compassion de Jésus. Quand le Samaritain voit ce pauvre homme à moitié mort, il se passe dans son cœur les mêmes réactions que dans le cœur de Jésus. La même compassion vient dans le cœur du Samaritain pour agir auprès de cet homme blessé. Il y a la même compassion pour décrire un même cœur. Cette disposition de cœur est celle de Jésus. Et par la disposition de cœur, Jésus va justifier le Samaritain. C'est-à-dire qu'il va le justifier devant Dieu. Et montre aux pharisiens que sa justification, par sa propre compréhension et application de la parole, est nulle et sans effet. Les propos de la parabole n'est pas finalement de savoir est-ce qu'ils ont agi ou pas. Parce que vous êtes d'accord avec moi, avec cette nouvelle traduction, on comprend qu'ils ont agi. Il y a eu une action. La question qui se pose, c'est quelle a été leur disposition de cœur dans cette action? Pourquoi s'arrêter juste au minimum? Pourquoi s'arrêter juste à ce que la bienséance accepterait? À ce que la culture, à ce que les mœurs nous dicteraient de faire? Est-ce qu'ils ont agi juste pour avoir une bonne conscience? Est-ce qu'ils ont agi juste pour ne pas être culpabilisés par le fait de ne pas avoir agi? Alors on fait le minimum? Jésus enseigne de manière similaire un petit peu plus loin dans la Bible. On trouve le même dialogue. En Luc 18, il y a un autre chef religieux, probablement un pharisien, qui vient voir Jésus et qui dit « Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» On trouve ça chapitre 18 à partir du verset 18. Et Jésus lui dit « Mais tu connais la parole, donc applique-la, mets-la en pratique, obéis à la parole de la même façon que ce qu'on a lu. » Et là, le pharisien lui dit mais maître, c'est ce que je fais depuis ma tendre enfance. C'est ce que j'ai toujours fait, j'ai toujours appliqué la parole. » Et là, il y a un verset très intéressant qu'on trouve au verset 22. Jésus dit « Il te manque quelque chose. » Il te manque quelque chose. Et moi, j'ai toujours cru jusque-là que Jésus était en train de parler du détachement matériel pour pouvoir s'attacher aux choses célestes, se détacher de ce qu'il y a ici-bas pour s'attacher à ce qui est dans les cieux. Et en soi, ce n'est pas faux. Sauf qu'en fait, le détachement, c'est une action. Le détachement, en fait, c'est la conséquence de quelque chose. C'est pas le moteur, c'est pas la source de l'action, vous êtes d'accord avec moi? En fait, la source de l'action, c'est la compassion. C'est la compassion qui va venir entraîner le détachement de nos richesses. Le détachement à ce qui nous tient à cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un cœur rempli de compassion qui peut accepter de prendre tout ce que l'on a, tout ce qui nous tient à cœur, toutes nos richesses, tout notre confort, pour le donner à celui qui n'a rien. Il n'y a qu'un cœur rempli de compassion qui va nous permettre de prendre, non pas ce que nous avons en surplus, mais ce qui va nous permettre de prendre ce qui nous est même nécessaire pour le donner à celui qui n'a rien. Il n'y a qu'un cœur rempli de compassion. Seulement un cœur qui souffre de voir souffrir, seulement un cœur qui se sent profondément concerné par la pauvreté de l'autre. Il n'y a qu'un cœur rempli de compassion qui nous pousse à faire au-delà de ce que la bienséance et nos mœurs demandent. Concrètement, si en tant que chrétien, on fait juste ce que notre culture occidentale a l'habitude de faire, à quoi ça sert d'être chrétien? Quelle serait finalement la différence entre ceux qui ont la foi en Jésus et ceux qui n'ont pas la foi en Jésus, si on fait juste ce que tout le monde fait? Il n'y a qu'un cœur rempli de compassion qui peut nous permettre d'aller au-delà. Il n'y a qu'un cœur rempli de compassion qui va nous permettre de soigner quelqu'un, mais aussi de payer ses factures jusqu'à son rétablissement. Il n'y a qu'un cœur rempli de compassion qui va nous permettre de donner notre manteau si quelqu'un vient nous demander un pull. Il n'y a qu'un cœur rempli de compassion qui va nous pousser à faire 2 kilomètres quand quelqu'un nous demande de porter quelque chose sur seulement 1 kilomètre. Ça vous rappelle quelque chose? Le sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 40. Jésus enseigne tout cela. Mais il n'y a qu'un cœur rempli de compassion qui peut le faire. Et Jésus dira, si vous faites ce que tout le monde fait, en quoi êtes-vous différent? Où est la différence si nous chrétiens nous faisons ce que tout le monde fait? En quoi la foi est-elle un bénéfice dans ce cas? Verset 45, Matthieu 5, verset 45 nous dit « Soyez des fils de votre Père qui est dans les cieux. » Soyez des fils de votre Père. Vous savez, on reconnaît, si je vous montre mes enfants, vous allez les reconnaître. Si, particulièrement si je vous montre mon fils, vous allez le reconnaître. Pourquoi ? Parce qu'on a des traits physiques similaires. Mais au-delà de ça, si vous l'entendez parler, vous allez savoir que c'est mon fils. Si vous le voyez vivre, vous allez savoir que c'est mon fils. Si vous l'entendez jouer à la guitare, vous allez savoir qu'il joue comme moi. Si vous l'entendez jouer au caron ou à la batterie, vous allez savoir qu'il joue comme moi. Pourquoi ? Parce qu'on partage quelque chose ensemble dans le cœur. Soyons des fils de Dieu. Ayons le même cœur que Dieu. Ayons le même ADN. La même... Alors, nature, ça va être compliqué parce qu'on ne peut pas être divin. Mais par contre, on a un truc. C'est le Saint-Esprit. On a un truc. C'est le Saint-Esprit qui, lui, prend de ce qui est à Jésus pour le mettre en nous. Il va prendre de la compassion qui est en Jésus pour la mettre dans notre cœur, pour nous pousser à agir envers notre prochain. Amen. Soyons des fils du Père qui est dans les cieux. Ayons de la compassion dans le cœur comme Dieu a de la compassion dans le sien. Une autre parabole, Matthieu 18, à partir du verset 23. Une parabole que vous connaissez aussi. La parabole que l'on appelle celle du serviteur impitoyable. Vous connaissez très certainement cette histoire. C'est cet homme qui doit 1000 pièces d'argent à son maître. Son maître le convoque et il lui demande de rendre son argent, mais lui, il ne peut pas. Il n'a pas les sous. Alors il implore son maître et son maître a compassion de lui. Il a compassion et il dit, écoute, j'efface ta dette, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, le serviteur sort et il croise un pote à lui qui lui doit 100 euros. Et là, il le violente, il lui dit, mais rends-moi mes sous. Et le gars lui dit, mais je peux pas, j'ai pas les sous. Donc le serviteur prend le gars et le jette en prison. Le maître est au courant de ça, il convoque son serviteur et lui dit ceci, Matthieu 18 à partir du verset 32. « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Le terme ici utilisé pour le mot « pitié », c'est un dérivé du mot de compassion en grec. C'est la même racine, c'est la même base. Encore une parabole qui nous montre que de la même façon que Dieu a compassion de nous, de la même façon que Jésus a compassion, nous sommes appelés à avoir la même compassion dans le cœur. Pourquoi ? Parce que c'est le moteur qui pousse Jésus à agir. C'est le moteur qui va pousser Dieu à agir. La compassion nous pousse à agir comme Jésus pour témoigner de son amour à notre prochain à cause de l'évangile de grâce. Maintenant, la réelle question, c'est qu'est-ce qui nous pousse, nous, à agir aujourd'hui ? Qu'est-ce qui nous pousse, nous, à agir envers notre prochain ? Quand nos yeux se posent sur une situation, quand nos yeux se posent sur une personne qui passe pour la première fois le pas de l'église, quand nos yeux se posent sur un SDF dans la rue, sur une personne en difficulté, qu'est-ce qui nous pousse à agir face à sa situation, face à ce qui va se passer sur le moment, quand on est en train de discuter avec quelqu'un et qu'on voit une souffrance, qu'on capte une souffrance? Qu'est-ce que ça provoque en nous? Vous savez, quand on croit cet SDF qui fait la manche à côté de Lidl, à côté d'Intermarché, d'Auchan ou n'importe quelle grande surface, cet SDF qui sent l'homme pas lavé depuis plusieurs jours, probablement l'alcool, la drogue et encore d'autres choses, qui vient encore demander des sous, c'est quoi la première réaction dans notre cœur? Vas-y, lâche-moi. J'ai pas de monnaie, c'est bon, j'ai pas de monnaie, c'est bon, me suis pas, j'ai pas de monnaie. Quelle est la première réaction qu'il y a dans notre cœur face à des situations, face à la souffrance de l'autre? Quel regard avons-nous? Quand nous agissons pour témoigner, qu'est-ce qui nous pousse à agir? Comprenez bien mon propos. Ce matin, je ne suis pas là avec une accusation. Comprenez bien que si je vous pose cette question ce matin, c'est parce que, croyez-moi, mon épouse peut en témoigner, Dieu est venu me la poser avant. Vous savez, je suis un homme, pendant longtemps, je disais, j'ai pas de compassion. Et en vrai, hein, j'étais quelqu'un de très froid, très dur. Un jour, on m'a dit, mais ciel, c'est pas grave, on va prier pour toi. J'aurais dit, mais surtout pas! Sinon, après, je vais devoir vivre avec. Donc, croyez-moi, Dieu est vraiment venu me challenger là-dessus. Qu'est-ce qui nous pousse à agir? Est-ce que c'est pour plaire à Jésus? Qu'est-ce qui va me pousser à aller au secours de quelqu'un? Est-ce que c'est pour avoir cette fierté de dire « Ah, j'ai obéi à la parole de Dieu, je me sens bien, gloire à Dieu, merci, tu m'as utilisé, Seigneur. » Est-ce que c'est pour prouver que j'ai de la foi? Vous savez, des fois, on prie pour les malades, on prie pour des situations, et gloire à Dieu, c'est très bien. Il faut continuer de le faire. Et vous savez, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans notre génération, quand on doit prier pour quelqu'un, on est plus concentré sur la foi que l'on a en Jésus plutôt que sur la souffrance de la personne. On est plus concentré sur « Seigneur, c'est toi qui fais les miracles, c'est toi qui fais « Oh Saint-Esprit, vas-y, viens, agis, j'ai foi en toi, je crois en ta parole. » Oui, ok, mais la souffrance de l'autre. Qu'est-ce qui nous pousse à prier pour la personne? Est-ce que c'est notre foi en Jésus ou est-ce que c'est parce que nous avons compassion de la personne? Vous savez, vous connaissez peut-être très certainement le pasteur Jean-Peter Schmitt. Dans son livre, il dit cette phrase, c'est Claude Grader qui le raconte. Le pasteur Claude, il dit, Jean lui a dit que si tu veux pouvoir prier pour quelqu'un, il faut que tu pries avec compassion. Parce que si tu n'as pas compassion de la personne, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Qu'est-ce qui nous pousse à agir? Est-ce que c'est par devoir? Est-ce que c'est par crainte de Dieu? Si je ne le fais pas, je vais aller en enfer. Seigneur, pardon, je n'ai pas agi, je vais perdre mon salut, pardon, Seigneur. Est-ce que c'est par peur? Ou est-ce que c'est au contraire? Pour montrer que nous, on a la foi, nous, on n'a pas peur, donc on y va et on y va plein pot. Et comprenons bien encore une fois, il y a certains de ces exemples sont des bonnes motivations. C'est génial de vouloir agir, de vouloir plaire à Jésus. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est très bien de vouloir obéir à la parole de Dieu. C'est très bien. Mais est-ce que notre cœur est rempli de compassion quand on agit? Vous savez, le gros problème, c'est que si on n'a pas une réelle compassion de la personne en face de nous, j'ai bien peur que, quand bien même nous voulons plaire à Jésus, quand bien même nous obéissons à sa parole, j'ai malheureusement peur qu'on se retrouve comme ce lévite et ce pharisien. À finalement ne faire qu'un soin minimum. Finalement à témoigner, j'ai cette image dans ma tête de tirer une flèche qui va toucher le cœur, la flèche de l'évangile, mais une flèche qui n'a pas suffisamment de force pour atteindre le cœur de la personne. On tire des flèches, mais finalement, il n'y a pas de fruits, quoi. Par manque de compassion. Je termine avec un dernier passage. Acte 3. C'est ce moment, juste après la Pentecôte, ce moment où Pierre a pris la parole, le Saint-Esprit est venu toucher son cœur et le pousse à parler. Il prêche l'évangile. Il y a 3000 personnes qui se convertissent. La Bible nous dit que le lendemain, donc les disciples reprennent un petit peu le cours de leur vie. Pierre et Jean montent ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Et là, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il puisse faire l'aumône à ceux qui demandaient l'aumône à ceux qui entrent dans le temple. Cet homme est boiteux de naissance. Il est là tous les jours. Les disciples allaient tous les jours à la synagogue. C'est pas la première fois qu'ils voyaient cet homme-là. C'est pas la première fois qu'ils voyaient ce pauvre homme malade en train de faire l'aumône. Mais ce jour-là, il se passe quelque chose. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allait y rentrer, en rentrer dans la synagogue, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Leurs regards se croisent. De la même façon que Jésus pose les yeux sur les situations. Pierre et Jean posent les yeux sur cet homme. Cet homme qui s'attend à recevoir des sous, bien sûr. Mais que fait Pierre ? Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Que fait Pierre à ce moment-là ? Au-delà de mettre sa foi en action, il y a une résonance intérieure à la souffrance de cet homme qui le pousse à agir. Et à ce moment-là, l'homme se lève. Ce n'était pas la première fois que Pierre voyait cet homme. Mais ce jour-là, touché par l'Esprit, rempli par le Saint-Esprit de la compassion qui vient du Christ, Pierre et Jean voient cet homme. Émus de compassion, ils tendent la main vers cet homme, et cet homme est guéri. Mes amis, ce matin, je viens juste avec ce message. De quoi est rempli notre cœur ? S'il est rempli de foi, gloire à Dieu. Il est rempli d'amour, gloire à Dieu. Comment réagit ce cœur ? Face à la souffrance des autres. Qu'est-ce qui nous pousse à les témoigner de l'Évangile ? Si vous êtes comme moi, vous vous rendez compte que vous manquez cruellement de compassion, la solution est simple. Laissons-nous remplir par l'Esprit. Laissons-nous remplir par l'Esprit de Jésus. Qui lui transforme les cœurs, qui lui transforme les vies, qui lui peut nous donner toute cette compassion qui va enclencher notre mouvement, qui va enclencher notre action, qui un moteur qui va porter du fruit, un fruit différent, un fruit, je le crois, bien plus grand. Comme l'a dit le frère, parce qu'à celui qui peut tout, il fait infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou même demander. Est-ce que vous voulez bien faire cette prière avec moi ? Est-ce qu'on peut incliner nos têtes ce matin ? Et chacun là où vous êtes, élevez vos voix, priez, et dites, Seigneur Dieu, je te remercie parce que tu es bon, tu es lent à la colère, tu es rempli de compassion, tu es fidèle. Et Père, je te prie ce matin pour que tu puisses remplir mon cœur de ta compassion, que tu puisses remplir tout mon être de ton esprit jusqu'à ce que je déborde. Et que, Seigneur Dieu, que ta bonté, ta grâce soit mon partage, mais que mon cœur soit rempli de ta compassion pour que je puisse agir non plus avec juste le strict minimum, mais que tu puisses, par ton esprit, me pousser à agir au-delà même de ce que l'on peut penser, au-delà même de ce que la bienséance nous demande de faire, au-delà même de ce que nous pouvons imaginer. Seigneur Dieu, que tu puisses nous conduire ce matin vers cette route de la compassion, que tu puisses, Seigneur Dieu, nous remplir de toi afin que nous puissions réellement nous sentir profondément concernés par la souffrance de l'autre. Que nous ne puissions pas forcément être concentrés sur la foi que nous avons en toi, mais que nous puissions compatir à la souffrance. Que nous puissions, Seigneur Dieu, être un peuple qui se démarque de la société par la compassion profonde qui nous vient de toi, que nous pouvons éprouver pour les autres. Et que par cela, Seigneur, nous puissions briller, que par cela nous puissions être cette lumière et ce sel dans cette ville, que par cela, Seigneur Dieu, nous puissions aller toucher des cœurs par ta parole, que par cela, Seigneur Dieu, nous puissions voir des vies transformées, parce que tu nous envoies, tu nous guides, et parce que tu nous donnes cet amour et cette compassion pour notre prochain. Nous te demandons dans le nom de Jésus, afin que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Amen.